RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, c'est parti, une heure de basket sur RMC comme tous les lundis soirs. Stephen Brun, Frédéric Weiss. Stephen, tu lâches ton téléphone. C'est comme à la maison, là, tu vois. Comme avec mes enfants. C'est comme si tu étais à table, tu te laves les mains. Tu lâches le téléphone, tu lâches tous les jeux, tu réponds.
Tu vas pas nous faire ton gibarimois avec la boîte à téléphone, non?
Non, mais je te vois là, non, mais c'est quoi ça? T'es à deux mètres de ton micro.
Quelques petites informations.
Mais c'est trop tard. Voilà, fallait travailler avant, c'est trop tard. C'est comme les examens, c'est trop tard. Faut bosser pendant l'année, tu vois. En plus, je sais que
j'ai pas le meilleur à l'école. Bosser, là.
Fred, ça va?
Ça va.
Fred,
t'as vu que j'ai mis une chemise?
Bon élève, tu vois, j'ai jamais rien à lui redire. Bon, après, il est nul au quiz, mais bon. De tempérament, quoi.
Merci beaucoup.
Bon, mais ce qui est bien, c'est que vous avez des tempéraments complémentaires, hein. C'est pour ça que cette émission cartonne. C'est parti pour Buzzer Time, spécial Paris Basket. On accueille tout de suite le directeur général Romuald Coustre et le coach Jean-Christophe Prat. Bonjour messieurs.
Bonsoir.
Alors, il y a un projet ambitieux à Paris, là. Hein. Ah, qui s'école?
Très ambitieux.
Très ambitieux, très bien. On va prendre le temps de décortiquer ce projet qui part presque de rien. Hein. On va expliquer tout ça en détail. Et puis, il y aura du direct ce soir avec la Ligue de BZMS et puis surtout France-USA à Antibes, l'équipe de France féminine qui poursuit sa préparation à la Coupe du Monde. Et puis, ne ratez pas Locker Room puisque Gaëtan Muller viendra répondre à la polémique car l'ASVEL change de couleur. Ça vous a choqué, messieurs, non, Fred et Stephen?
Ah ouais, ouais, je suis outré, Pierrot. Par contre,
c'est la mode de changer de couleur.
C'est pourquoi je vais regarder mon téléphone. Je vais recevoir un texto de David Kahn, il me dit « Quel est ce mec à lunettes qui dit que je suis milliardaire ?»
Parce que milliardaire, si tu veux, ça donne plus envie d'écouter.
Ah d'accord.
Parce que si je dis qu'il a 50 euros en poche, tu vois, le projet, tout de suite, c'est moins excitant, non?
On est parti.
Allez, c'est parti pour le Paris Basket ce soir.
RMC. Buzzer time. Les news.
Alors donc ce soir on reçoit Romuald Coustre et Jean-Christophe Prat, directeur général et coach du Paris Basket. Alors désormais le nom il est épuré, c'est Paris Basket. Hein. Alors ça n'a plus rien à voir avec l'entité Paris Levallois, c'est un nouveau club qui repart. Alors pas tout à fait de rien, mais pour résumer, David Kahn, donc l'ancien président de Minnesota, a racheté la licence de Hier Toulon et a obtenu l'autorisation de démarrer en Pro B. On peut dire que vous démarrez, allez, quasiment de rien, Romuald.
On part d'une page blanche et à la limite, on n'a même pas la page. Donc effectivement, le projet est né très tardivement, début juillet avec une mise en place mi-juillet. Sur le rachat d'Hier Toulon, effectivement.
Ça faisait longtemps que vous étiez en pourparlers, j'imagine. C'est pas fait du jour au lendemain en disant tiens, si on rachetait Hier Toulon.
Non, ça fait longtemps que David Kahn a ce projet. Il y travaille très honnêtement depuis 2 ans à peu près. Depuis 2 ans, il est à Paris de manière très régulière, avec effectivement l'ambition de positionner Paris sur la carte européenne des clubs de basket, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il avait au départ l'envie de monter un club, de le prendre au niveau national et amateur et de le monter en Pro A. Sur du long terme. Le fait est que l'opportunité s'est présentée en courant de saison dernière de racheter les droits d'Hier Toulon, ce qu'il a préféré, puisque effectivement ça permet de démarrer tout de suite au niveau professionnel.
Il y avait d'autres équipes en contact avec vous pour être rachetées éventuellement, ou c'était vraiment Hier Toulon la seule opportunité?
Non, a priori c'était Hier Toulon. C'était Hier Toulon qui vraiment offrait les possibilités les plus fortes et qui, de leur côté en tout cas, avaient envie de revendre le club.
Alors quel est l'objectif clairement énoncé à court ou moyen terme? C'est quoi l'idée? C'est d'arriver en Pro A en 2 ans? C'est de faire un club très ambitieux. La Jeep Elite, tu as raison.
Un club ambitieux, forcément, parce que c'est Paris.
Mais ambitieux jusqu'à quel point? C'est être champion de France. Quel est le discours de David Kahn, Jean-Christophe? Au niveau sportif,
déjà, je vais te reprendre. C'est pas Paris Basket, c'est Paris Basketball.
Paris Basketball.
Je le dis parce que je me suis fait reprendre par David Kahn lors de la conférence de presse. J'avais dit Paris Basket aussi et
Paris Basketball.
En plus, voilà. C'est marqué sur ton polo, tu peux pas.
Exactement,
le prouver.
Exactement, je peux pas prouver. C'est pour ça là.
J'essaie de penser que l'émission était à la télé, donc il a mis le polo de Paris Basketball.
Non, je suis corporate. Bon, en tout cas, moi, le projet qui m'a été présenté, c'est un projet à quatre ans. On sait qu'on a les jeux en 2024. A priori, il y a une salle qui va se construire à Porte de la Chapelle en 2022.
C'est a priori ou c'est sûr?
Pour accueillir le basket, oui, c'est ce qui est prévu en tout cas pour Paris 2024.
Voilà. Donc cette salle accueillera le basket pour les Jeux Olympiques et devrait, c'est ce pourquoi David Kahn est là, avoir un club résident qui serait le Paris Basketball à compter de la saison 2022. Donc l'objectif, c'est dans 4 ans, être prêt à être en JP Elite dans cette salle. Et potentiellement.
Oui, est-ce que c'est déjà dans 4 ans être compétitif pour être champion de France, clairement?
Clairement, je pense.
Est-ce que tout ça c'est acté avec la mairie de Paris, c'est-à-dire qu'en 2022, vous êtes le club résident de la nouvelle salle, Romuald?
C'est difficile de dire acté, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de la mairie de Paris d'avoir un club de très haut niveau en basket. Ils sont vraiment partie prenante et ils soutiennent à 400% le projet. Maintenant, effectivement, 2022, 2023, il y a au moins une certitude, c'est qu'avec les JO 2024, il y aura forcément une salle, ce qui parfois en France peut
surtout poser, à Paris.
Surtout à Paris, mais en tout cas, on a cette certitude-là qu'il y aura la salle.
En tout cas, alors pour l'instant, vous allez jouer à vos matchs de championnat Pro B à la Halle Carpentier. C'est pas vraiment le luxe qu'on attend d'une salle des JO 2024, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe en revanche si ça ne suit pas sportivement? Imaginons que vous ne montez pas en JP Elite dans les deux ans. Qu'est-ce qui se passe?
Grosse pression pour toi déjà, Gis. On va pas se mentir, mais il y a une grosse pression.
Alors, je vais tout de suite vous enlever beaucoup de pression.
Non, hein, non, mais nous, on n'en a pas, c'est toi.
J'en ai pas non plus. Pour cette année, le seul objectif qui m'a été présenté, c'est de me maintenir en Pro B. Voilà. On a construit une équipe au 25 juillet. David a été très clair avec moi. Il m'a dit, je peux pas te demander autre chose que ça sur la première saison. Donc et je pense même, et là j'extrapole un peu, je suis pas persuadé que sous les deux ans qui arrivent, la JP Elite soit une obsession pour lui. Je pense que pour les deux ans qui arrivent, son obsession, c'est de valider les plans et la construction de l'aréna comme il le souhaite pour qu'elle soit vraiment faite pour du basketball.
D'accord, donc là pendant deux ans c'est prendre la température et une fois que tout est réuni pour aller au plus haut niveau. Ça y est, on met la machine en route pour aller au plus haut niveau français.
C'est comme ça que j'ai compris les choses.
Et voilà. Comment t'as construit ton équipe justement? T'avais tellement peu de temps pour le faire et un petit objectif quand même de se maintenir en Pro B.
Un gros objectif quand on connaît la Pro B.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je reprends tes propos. T'as dit pas tant de pression que ça.
Non, c'est pas tant de pression. Après, la chance que j'ai eue cette année, c'est que il y avait quand même beaucoup de joueurs formés localement, de joueurs français sur le marché au 25 juillet. Donc assez vite, j'ai trouvé quand même une ossature de 4-5 joueurs. Donc ça m'a permis d'avancer après. Une fois que j'ai eu ces joueurs-là sur les joueurs étrangers, on sait que les joueurs étrangers arrivés en fin de marché, c'est aussi parfois plus simple parce que ça coûte moins cher. Et la plus grosse difficulté, c'est de trouver les 4 joueurs moins de 23. Puisqu'on n'a pas de centre de formation, on est obligé d'avoir 4 joueurs moins de 23.
Et en termes de budget, de masse salariale, où vous situez-vous par rapport aux autres clubs de Pro B?
Aujourd'hui, je dirais que, alors, je connais pas toutes les masses salariales, mais aujourd'hui, on doit être entre la 8e et la 12e masse salariale.
On est dans la moyenne. C'est quoi votre budget? Parce que masse salariale, je sais pas, mais budget au moins.
On a un budget d'environ 2,5 millions d'euros. Ce qui est un budget moyen de Pro B.
Et à l'horizon de la JP Elite, ce serait combien? Ce serait un budget de combien?
Bah, l'objectif, c'est d'être compétitif déjà en JP Elite quand on aura la chance d'y être, mais on en est très loin aujourd'hui. Vraiment, comme le disait Jean-Christophe, il y a un objectif de construction réellement patient, d'être en mesure de passer toutes les étapes et de bâtir les fondations de ce club-là. David Kahn est vraiment pragmatique et il sait que il suffit pas simplement de mettre de l'argent au départ et de construire, il faut que le club soit solide et soit capable de tenir non pas sur 4 ans, 5 ans, mais sur 20 à 30 ans.
Mais après, un gros budget en JP Elite, aujourd'hui c'est 7-8 millions d'euros. Est-ce que ça c'est possible, c'est envisageable, c'est envisagé?
Ça nécessitera beaucoup de travail, mais c'est envisageable. Parce que c'est envisageable.
D'accord. C'est ces 2 millions là d'euros de budget, ils viennent d'où? Ils viennent de David Kahn et de la mairie de Paris? Il y a d'autres choses?
Comme dans tous les clubs, c'est la subvention des collectivités territoriales.
Il
y a déjà des partenaires qui nous rejoignent. Et puis David Kahn, effectivement, et les autres investisseurs américains qui apportent le complément du budget.
Donc en fait, ce club, il est dépendant de David Kahn. Si un jour David Kahn le prend l'envie de dire « bon bah finalement j'arrête », le club il est mort?
Non, pas forcément, parce que c'est la même chose dans d'autres clubs qui appartiennent à des privés. Tony Parker à l'ASVEL, il peut se retirer, l'ASVEL sera toujours là. La seule différence, c'est que effectivement, on part de zéro et qu'on n'existe pas aujourd'hui sur la carte, ce qui va faire Paris Basketball, c'est ce que nous on va en faire aujourd'hui sur le terrain, sur le terrain économique business, sur l'animation qu'on va pouvoir faire pour créer une dynamique autour de Paris Basketball dans la capitale.
Alors on est ce soir avec Romuald Couce, le directeur général, et Jean-Christophe Prat, le coach du tout nouveau Paris Basketball. Vous savez ce qu'on va faire ? Dans un deuxième temps, on va imaginer le mieux. Voilà, le meilleur scénario pour le Paris Basketball. Et vous allez nous raconter ce qui va se passer à Paris en basket à partir de 2023-2024 à peu près. Le direct France-États-Unis, ça se passe à Antibes. L'équipe de France qui peaufine sa préparation à la Coupe du Monde, Arnaud Valadon.
Avec un très gros morceau, les États-Unis pour ce troisième match en trois jours, à 1 minute 12 de la fin de la première mi-temps. 30 pour les États-Unis, 21 pour la France, qui résiste. 10 points pour Sandrine Gruda.
Et on a un œil également sur le match de Ligue 2 entre Béziers et Metz.
Le leader invaincu, le FC Metz, qui se déplace donc à Béziers, 0-0 après 24 minutes de jeu.
Alors si vous avez envie de fantasmer, si vous voulez imaginer un très grand club de basket à Paris avec des méga stars internationales, peut-être pourquoi pas le retour de Fred Weiss et Stephen Brun sur les parquets, qui sortiraient de leur retraite. Excellente idée, Stephen. En plus, avec ta souplesse, tu serais bon, toi.
Excellente, j'irais pas jusque là. Hein.
Sexy plutôt. T'as quand même, faut le dire, t'as un passif, enfin en tout cas t'as une expérience. Avec nos invités Jean-Christophe Prat et Romuald Couce. Faut le dire parce qu'il y a une proximité qui se sent à l'antenne.
Jean-Christophe Prat, pendant mon année à Villeurbanne, était entraîneur des espoirs et du centre de formation. Et Romuald Couce, mes 2 ans au BCM Gravelines, était le général manager du club. Donc je connais bien ces deux garçons.
Donc celui qui t'a signé ton chèque pour te faire partir, c'est Romuald, c'est ça?
Non, j'ai
quand ils en pouvaient plus de toi.
J'ai fini mon contrat.
Il a terminé son contrat.
Et moi, il venait pleurer auprès des coachs espoirs parce qu'il jouait pas en pro.
Ah, c'est pas beau ça.
Tu sais que je me suis entraîné une fois avec les espoirs parce que j'avais joué 2 minutes et Claude Bergeau m'a dit bon, t'as pas beaucoup joué, tu vas t'entraîner. Je me suis retrouvé avec Jean-Christophe Prat comme entraîneur.
Alors si vous avez des questions à poser à Romuald ou Jean-Christophe, il y a le 32-16 évidemment pour tout savoir du projet Paris Basketball. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, votre rendez-vous basket du lundi soir continue sur RMC. Stephen Brun, Frédéric Weiss avec nos invités, le directeur général du Paris Basketball, Romuald Couce, et son coach Jean-Christophe Prat. Alors on continue bien sûr de détailler le projet. On va maintenant imaginer le plus beau des scénarios. Voilà, si tout se passe bien, si tout fonctionne comme dans un rêve. Par exemple, Stephen, si David Kahn, qui a fait ses preuves à Minnesota, a autant de flair pour le Paris Basketball.
Parce que je crois que
tu voulais rappeler quelque chose sur le propriétaire du Paris Basketball.
Non, mais quand il était au Timberwolves, il avait eu 3 choix de draft en 2009. Il avait pris 3 meneurs et en 6, il avait surtout pris la légende Johnny Flynn, qui est pas loin d'être...
Qui n'avait pas été mauvais sur ses premières années.
C'est les Warriors qui avaient eu le choix de draft et puis ils avaient pris un petit joueur sympa qui est Steph Curry, mais c'était juste
son choix suivant, ça se joue pas grand chose finalement.
peut-être
donc tu veux dire quoi, qu'il a pas le nez creux, quoi?
Il a pas été très bon avec les Timberwolves.
Après, qui s'occupe du sportif purement et simplement, Jean-Christophe? Ouais, c'est Jean-Christophe. Toi et ton équipe, ou tout le monde a son mot à dire?
Non, en fait il a été très clair avec moi, David Kahn. Il m'a dit voilà, ton enveloppe c'est ça et tu
débrouilles
qui tu veux, donc c'est plutôt cool ça. Voilà, donc si on réussit, c'est un peu grâce à moi. Si on échoue,
c'est surtout à cause de moi. Voilà. Alors, avant de poursuivre, on va faire le point sur ce France-États-Unis féminin à la mi-temps à Antibes. Les Français sont loin d'être largués, Arnaud. Voilà.
Elles ont recollé grâce à Marine Johannes au buzzer, 27 à 33 points de retard seulement. C'est toujours Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse côté française avec 10 points. 8 points également pour l'américaine, la légende Diana Taurasi.
Et toujours 0-0 entre Béziers et Metz. Alors, imaginons que tout fonctionne comme sur des roulettes en 2024. Il se passe quoi en 2024? Vous êtes en JP Elite, vous jouez le titre chaque année, vous êtes en Euroleague.
Faut avoir un centre de formation déjà pour être en JP Elite. Il y a eu la jurisprudence Blois, donc
on y travaille. On y travaille
l'année prochaine. Vous êtes en train d'y travailler déjà là.
On y travaille déjà.
Sur un malentendu, vous êtes en JP Elite l'année prochaine, vous pouvez pas monter.
Bah si, parce que s'ils ont fait la demande maintenant, c'est un an.
Le dossier va être déposé là, je crois.
Le dossier a été déposé au 31 août.
Et vous êtes pistonné en plus, vous, avec la mairie de Paris.
De toute façon, au pire, on montera sans monter.
Mais voilà, c'est bien. L'entité, elle n'est pas que professionnelle actuellement. C'est-à-dire qu'il y a, ça a été au départ une fusion de 3 ou 4 clubs locaux, non?
C'est Paris Basket Avenir qui était effectivement le club, la CTC, puisque ça s'appelle une CTC dans le basket, regroupement de plusieurs clubs, qui avait été choisi par David Kahn pour servir de base effectivement au Paris Basketball et qui aurait dû être l'équipe de N2 sur laquelle il se serait appuyé si l'opportunité d'y retourner s'était pas présentée. Donc ces trois clubs-là forment aujourd'hui la structure associative du Paris Basketball.
Donc au départ, le Paris Basket Avenir devait démarrer en National 2.
En National 1 avec
c'est en fait les ennuis financiers d'hier Toulon qui ont créé cette opportunité. Hein, c'est
ça. Paris Basket Avenir serait monté en N1 avec le nouveau format de championnat et les
wildcards qui ont
été attribués. Oui. Donc il aurait fallu partir de National 1 et puis monter les échelons sportifs, ce qui était tout à fait envisageable, très honnêtement. Je pense que dans les deux cas, il y avait des avantages et des inconvénients. Donc voilà, aujourd'hui...
Romuald, est-ce que vous pouvez nous décrire l'idéal du club Paris Basketball en 2024, si tout se passe bien?
Si tout se passe bien, ça veut dire qu'on aura très très bien travaillé à tous les niveaux.
Ça ressemblera à quoi?
Ça ressemblera à un très bon club bien organisé, bien géré, qui aura réussi à fédérer un soutien populaire à Paris et qui aura
compliqué,
aussi
c'est
compliqué.
Vous misez sur combien de spectateurs
et qui évoluera si possible dans 4 ans en JP Elite, mais il faudra l'avoir mérité.
Non mais oubliez les précautions d'usage, on va se mettre dans un truc virtuel. Voilà, il y a pas de pression.
J'y sais pas, il est vraiment très très bon.
Vous voulez me faire parler de l'Euroleague, c'est ça?
Par exemple. C'est le but. Est-ce qu'il y a déjà des négociations, par exemple, avec l'Euroleague? On est quand même Paris, on est la capitale. C'est quand même une marque facile à vendre. Est-ce que vous êtes déjà en négociation avec l'Euroleague?
Il y a pas de négociation aujourd'hui avec l'Euroleague et on sait très bien où est notre place. On est juste un club qui vient d'arriver en Pro B et qui va simplement essayer de se construire, de se maintenir en Pro B. On n'a aucune prétention à vouloir discuter aujourd'hui avec l'Euroleague. Simplement, on va prendre le problème à l'envers. Je pense que le jour où on sera un club cohérent de JP Elite, le jour où on aura prouvé que sportivement, économiquement, on tient la route et qu'on sera un vrai club avec une assise populaire en JP Elite, faut pas se faire d'illusions. La marque Paris, elle intéressera l'Euroleague et c'est l'Euroleague qui viendra chercher Paris Basketball.
Moi, je pense que
c'est pas Paris Basketball qui ira chercher l'Euroleague.
Je pense qu'aujourd'hui l'Euroleague, enfin, moi j'ai fait l'Euroleague avec pas mal de clubs, avec Orléans, avec l'Asvel, avec Beşiktaş.
Tu la racontes un peu.
Non, je me la raconte pas. Je me permettrai pas. Allez, si un petit peu, allons-y. Non, mais aujourd'hui l'Euroleague rêve que d'une chose.
Bah, Jordi Bertomeu, il l'a dit haut et fort.
Mais oui, il veut un grand club à Paris.
C'est un gros marché, la France.
Mais clairement, si demain en plus, t'as une salle de 9000, 10000 places à Paris avec un club résident.
Avec un budget de 10 millions, Romuald.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer à l'horizon 2024-2025 un club qui chaque année joue le titre en JP Elite, a une ou deux stars du basket français, sans parler des joueurs internationaux, qui remplit, allez, on va dire 6-7000 à chaque match et qui a un budget de 15 millions d'euros pour être compétitif en Euroleague?
Moi, je rajouterais une chose aussi qui tient à cœur David.
Coach.
Alors peut-être un bon coach, mais bon, après ça sera peut-être moi. Hein. Tiens, pour rajouter ça.
Là. Pas toi, le bon coach.
Non, je rajoute une chose, c'est une chose qui tient à cœur David Kahn, et c'est aussi pourquoi moi je me suis investi dans ce projet-là, c'est qu'il veut former des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait des jeunes joueurs qui caillent dans des pays étrangers à 17-18 ans. Et qu'il n'y ait pas de club en France pour les accueillir ou qu'ils veulent pas les accueillir. Je trouve pas ça normal.
Surtout avec ce vivier qu'il y a en Île-de-France de gamins, les gamins, ils peuvent pas vous échapper à vous.
Mais voilà. Il est réputé pour la formation, voilà.
Et je pense que David Kahn,
Romuald.
C'est aussi pour ça qu'il m'a fait venir, c'est que, il sait que j'ai pas peur à mettre des gamins sur le terrain. Donc, tu vois, aujourd'hui, très clairement, il y a un môme de 16 ans que je voulais signer en deuxième meneur. Ça a pas pu se faire pour X ou Y raison, mais j'avais pas peur de le mettre sur le terrain même à 16 ans.
Alors après, est-ce qu'il y a déjà un début de stratégie pour attirer un public et fidéliser un public, ce qui est difficile, on le sait, quel que soit le sport à Paris.
À Paris, c'est compliqué.
À Paris, c'est compliqué et effectivement des stratégies, des choses qu'on va essayer. On pense pas être plus intelligent que les autres par rapport à ce qui a pu être fait par le passé, mais on va essayer en tout cas de faire les choses de manière un peu différente. Ça c'est sûr. Avec la difficulté de jouer les premières saisons à la Halle Carpentier, Ce qui permet forcément d'être moins séduisant que dans une vraie salle moderne dont on disposera en 2022 ou 2023.
Vous allez transformer un petit peu Carpentier ?
Les travaux, oui. Les travaux qui sont en cours sur la halle Carpentier, de manière à rendre...
sur les espaces VIP.
Éviter les fuites au plafond ?
Déjà, bon. Non, simplement essayer de la rendre un petit peu plus attractive, de la labelliser aux couleurs du Paris Basketball. Sur les premières années, de réduire sa capacité à 2200 places à peu près. De manière à ce que ça soit un petit peu plus cosy qu'une grande salle de 4000, parce qu'on n'a pas la prétention non plus de remplir 4000 places tout de suite. Encore une fois, il y a beaucoup de patience dans la stratégie de David Kahn. Il sait très bien que ça va prendre du temps. Il sait très bien qu'on va pas attirer tout de suite, simplement sur le nom Paris Basketball, la totalité des fans de basket. Il va falloir convaincre. Donc on va s'y atteler. Avec beaucoup de passion en tout cas, et une vraie stratégie, comme le disait Jean-Christophe, d'avoir une identité parisienne forte et d'avoir une identité jeune forte.
Mais est-ce que tout ce qu'il va y avoir autour des matchs, ça va être très labellisé outre-Atlantique avec la présence de David Kahn ?
Non, parce que dès la conférence de presse, il a été très clair en disant « je suis pas là pour faire un club américain à Paris ». Il a des méthodes, il a des
habitudes. Pourtant, ils font des bonnes choses là-bas.
Oui, mais
ouais, sur le show, ils sont plus
sur le show. Maintenant, il a aussi l'intelligence de savoir que ce qui peut marcher potentiellement aux États-Unis marchera pas forcément en France pour des raisons culturelles. Mais on va essayer des choses. On va essayer des choses parce qu'il a quand même une expérience assez forte de la NBA et que malgré tout, aujourd'hui, ce qui se fait de mieux en termes de spectacle, d'organisation et de marketing dans le basket mondial, c'est la NBA.
Vous allez tenter le jacuzzi ou voir du terrain comme le stade Malherbe de Caen pour...
T'auras pas ton pot
faudra,
de
il faudra encore d'autres travaux, il faut qu'on arrive à convaincre.
J'ai cette émission où vous proposiez d'aller faire l'émission là-bas, c'est ça? Non, il y a pas un nouveau chroniqueur qui a dit qu'il voulait faire une émission, il me semblait qu'il y avait...
à Caen?
Ouais, dans le jacuzzi. Ou
ça doit être Jérôme Rotten, ça.
Ouais, c'est possible.
Ouais, il me semble, ouais.
Jean-Christophe Prat et Romuald Coustre, donc directeur général et coach du Paris Basketball. Là, on parlait donc de du meilleur des scénarios. Est-ce que le pire, à l'inverse, on peut envisager que le projet n'aille pas au bout, que ça se termine dans 2-3 ans, ça peut arriver. Si jamais vous maintenez pas, par exemple.
Aujourd'hui, je pense que non. Je suis parisien. Des projets à Paris, j'en connais.
On en a vu passer.
Très longtemps, on en a vu passer. Je pense que non, parce que vraiment cette grande salle va changer quelque chose. C'est-à-dire que il va falloir y mettre un club résident, un club pérenne. Et je pense que David Kahn, il est conscient, sans rentrer dans les détails, il l'a dit. Hein, sur les 4 premières années, il va perdre beaucoup d'argent, mais il le fait parce qu'il est certainement qu'il a des garanties par rapport à cette grande salle et d'être le club résident.
Parce que la grande salle sera financée par le comité d'organisation des Jeux 2024, on est d'accord? C'est pas l'argent de David Kahn qui va aider à financer cette salle.
Non, c'est l'organisation des JO, simplement. Comme tout équipement olympique, il faut prévoir l'après, pour que cette salle-là soit construite effectivement sur les fonds olympiques, mais que derrière elle puisse être utilisée.
Oui, ce qui vous assure le soutien total de la mairie de Paris, évidemment, puisque la mairie de Paris ne peut pas se permettre de construire une nouvelle salle sans qu'il y ait un minimum d'avenir sportif dedans, quoi.
Autant que ça serve en 2024, effectivement.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Buzzer Time, et puis on va suivre de près. Pourquoi tu me regardes avec ton petit air de coquin, toi, Stéphane?
Après, je bois tes paroles.
Tu sais pourquoi? Moi, je vais te le dire pourquoi. Parce que t'as senti à mon ton que j'ai failli dire basket time.
Oui, exactement.
Hein. Parce que l'émission a changé de nom cet été. Hein. Merci beaucoup, Romuald et Jean-Christophe. Le basket à Paris, ce sera un des thèmes du quiz hein, qui arrive. Contre un.
Je voulais juste le dire tout à l'heure, tu m'as dit non.
Bah, j'avais pas te dire oui pour te donner des réponses. Stéphane Brun, Frédéric Weiss, à tout de suite.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soir 21h, 22h sur RMC. Stephen Brun, Frédéric Weiss, il y a du direct ce soir. Et on suit un match important pour l'équipe de France féminine qui prépare donc son championnat du monde face aux Américaines. Arnaud Valadon, c'est à Antibes. Est-ce qu'on tient toujours?
Et oui, on tient toujours. C'est reparti depuis 1:20. On est dans le troisième quart-temps. 3 points d'avance seulement pour l'Ogre. Les États-Unis ultra favoris, évidemment, de ce mondial à venir à Tenerife. 34-31, la France, donc juste derrière.
Et puis, le match de Ligue 2 entre Béziers et Metz, 0-0 à 3 minutes de la mi-temps.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Bang! Tie game!
un contre un.
Alors c'est un contre un, forte coloration équipe de France, hein, puisqu'on a bien sûr le championnat du monde, la Coupe du monde féminine qui arrive, et puis l'équipe de France, elle, qui est masculine, qui est en train de se qualifier pour la Coupe du monde 2019. Mais il n'y aura pas que de l'équipe de France, évidemment. Vous êtes prêts, messieurs?
Allez, on va dire oui.
Alors, on va commencer par évoquer ce France-États-Unis.
Oui.
Parce que vous savez qu'en 2014, le 21 septembre 2014, la France a battu les États-Unis en préparation au championnat du monde. Sur le score de 76 à 72.
Après prolongation.
Qui termine Céline meilleure Dumerc. Scoreuse de ce match?
Sandrine Gruda. Sandrine Gruda.
Céline Dumerc.
Sandrine Gruda. Voilà, c'est la bonne réponse. Ouais. C'est direct.
Alors, tu me regardes après,
ouais, je sais pas, il regarde, il regarde quand même, il attendait notre réponse.
Non, mais j'attendais de voir la réaction de Fred.
Combien, elle finit à combien? Elle a scoré, je crois, non? T'as son total de points?
À Sandrine? 26 points.
Ouais, il me semblait bien qu'elle a mis une bonne fournée, ouais.
Et alors, on a battu les États-Unis en préparation, et on a fini 7e de ces championnats du monde.
Comme quoi, même si on bat les États-Unis, ça veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'on fasse une bonne compétition après, quoi.
Ouais. Alors, un premier point pour Stephen Brun. Deuxième question, et je vous ressors mes fameuses petites citations que tu aimes tant, Fred, qui a déclaré, titulaire en équipe de France, je ne m'y attendais pas.
Mathias Tessor.
Non,
c'est Amine Noua.
Amine Noua, c'est ça, il est là sur la réactivité.
Il est là, Bibi, mais oui.
Qu'est-ce qui se passe, Fred? Tu te laisses impressionner par cet énergumène.
Amine Noua, la petite surprise. Là, l'absence de Boris Diaw, pas de 4 vraiment référencés, donc il a été lancé dans le 5 contre la Bulgarie. Après, Vincent Collet contre la Finlande a changé une configuration d'équipe différente. C'est Nico Batum qui joue 4 et Mathias Tessor
pas de 5. En disant que c'est quelque chose de négatif pour certains joueurs, ça peut être quelque chose de très positif.
Ouais. Après,
donc ça fait 2-0 pour Stephen Brun. On enchaîne, t'es prêt? T'es chaud?
Je suis en
très
pleine
dur.
Forme.
Très très dur. On augmente le niveau. L'équipe de France féminine de 3 contre 3 a été sacrée championne d'Europe. Ouais. Sur les 4 joueuses, combien pouvez-vous m'en citer? Stephen?
Moi, 4.
4? Bah vas-y, hein. Je peux pas faire mieux, Fred, toi.
Bah non, sur 4, ça va être difficile de faire plus.
Jenny Foisseau, Mamignan Touré, Anna Maria Philippe et Marie-Ève Pagé.
C'est excellent. C'est excellent. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse,
Non, mais là, je peux rien dire. Non, mais moi, je l'avais noté, en fait. Je l'avais noté.
Mais pourquoi tu prends pas la main dans ce cas? Tu dis, je t'en donne 4 et puis c'est
moi,
terminé.
Moi, je connaissais que Anna Maria Philippe.
Bon, donc c'est mérité. C'est un point mérité. Et c'est un troisième point. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ça va trop vite. Donc, je vais vous sortir ma série de 5 questions. C'est notre nouvelle rubrique qui cartonne. 5 questions sur l'histoire du basket à Paris.
Oh.
Donc, vous avez 2 thèmes. Et c'est Fred qui va choisir. Les années 90 ou les années 2000? Je dis franchement, les deux sont durs. Hein.
Les années 90.
Les années 90, c'est parti. 5 questions. Celui des deux qui répond le mieux aux 5 questions marque le point. Donc il n'y a pas 5 points à marquer, il y a un seul point.
On a compris le principe.
Première question, mon cher Frédéric. Quel était le nom du club professionnel de basket à Paris en 1990?
PSG Racing.
Pas du tout. C'était le Racing Paris Basket. D'accord.
Ok.
En quelle année le PSG Racing Basket a-t-il été champion de France?
97.
C'est bon.
Pardon. Par contre, Pierrot, objection, t'es un peu dur sur Fred parce que c'est Racing PSG Basket. Hein. C'est le PSG, le nom est
non,
dans le PSG.
Parce qu'en 90, c'était Racing Paris Basket.
Ah, en 90?
Oui,
ah, c'est en 92
question, c'est
que ça vient. D'accord, je m'excuse.
D'accord.
Mais j'ai compris 92.
Ouais, j'ai pourtant dit 90. Donc, troisième question, quels étaient les coachs de ce titre de champion de France?
Bah, c'était Boja?
Pas du tout.
Jackie Renault, non?
Jackie Renault.
Et Didier Dobels.
Mais c'était à Fred qu'on posait la question. Donc on en reste à une bonne réponse. Quels joueurs ont été champions de France 97 avec Paris et champions d'Europe avec Limoges en 93?
Ça, Richard, c'est pour Richard toi, Dacoury.
Ça. Ouais, et le deuxième? Il y en a un autre.
Fred Forté?
Non. Très dur. Pas dur, pas évident, quoi.
Franck Mériguet?
Non.
Jean-Marc Duprat?
Non, mais laisse-le.
Ah, il est encore en cours.
Il le sert, Arnaud Valadon.
Vas-y, Arnaud.
Rizaché?
Mais non!
Rizaché, il a jamais joué à Limoges! Qu'est-ce que tu racontes?
Yuris Dodge.
Yuris Dodge.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, toujours une seule bonne réponse. Et enfin, contre quelle équipe NBA a joué le PSG Racing Basket dans les années 90?
version de jeunesse.
Pas du tout. Les Chicago Bulls de Michael Jordan.
Ah, l'Open McDonald's, c'était.
Donc, une bonne réponse.
Ah oui?
Ah oui.
Ah non, mais oui, c'est pour ça. J'ai confondu avec, il a joué, non, je vous explique. Je vous explique tout simplement. En fait, Limoges a joué contre, Los Angeles. C'est pour ça. J'ai confondu les deux.
Comment tu dis Lakers? Les Lakers, quoi. Les Lakers, ça passe.
Les Lakers, ouais.
Comment tu dis?
Los Angeles Lakers.
Comment il dit? Los Angeles?
Los Angeles? Oui, comment, les gars? Comment vous dites Los Angeles?
Ouais, ça va, ça va. Je sais pas, j'ai...
Ouais, moi
j'ai entendu Los Angeles. Mais bon, c'est ça
doit être combien? Un point?
Un point.
Oh, c'est faut cadeau, que tu battes c'est ça.
Cadeau. Cinq questions
c'est
sur
quoi,
le Paris.
2000.
Basket, le basket à Paris dans les années 2000. En 2002, quel président d'un club de foot rachète le club? Louis Nicolas, c'est une bonne réponse. En quelle année le club parisien fusionne avec Levallois?
En quelle année le club parisien fusionne avec Levallois? 2008.
Ah, t'y étais presque. 2007.
Ouais.
Qui était le vice-président des sports de la première année du Paris-Levallois?
Le vice-président du sport? Le vice-président?
Ouais. Chargé du sport, quoi.
Je sais pas.
Ah, si tu sais, Antoine Rigaudeau.
Ah, bon. Du club, je croyais à la...
Franchement, la question était super... tu vois, je vais le défendre, la question était super mal posée.
Soit, mais...
À la mairie de Paris,
mal posée, mais on parle du club, hein, donc...
Ah ouais,
j'ai bien dit du Paris-Levallois.
Oui, mais vice-président du sport.
Vice-président des sports lors de la première année du Paris-Levallois. C'est très mal posé.
Merci, Pierrot.
Mais bon, tant pis, je te donne pas la bonne réponse pour autant. Qui était le meneur titulaire de la saison 2000-2001?
2000-2001 du...
À Paris.
Tony Parker,
c'est bien. Tu vois, il a réfléchi, il le savait pas, mais par déduction, il savait qu'il y avait du Tony Parker quelque part. Et quel entraîneur a coaché le plus de matchs sur le banc parisien dans les années 2000?
Jacques Monclar,
là aussi, déduction, excellent. Trois bonnes réponses, tu marques le point. Ça fait 4-0 pour Stephen. Il reste 4 minutes.
Et vous êtes un peu amoureux tous les deux, hein, parce que dès qu'il donne des bonnes réponses,
je le hais, mais je l'admire, tu vois.
Pourquoi tu me hais?
Je le hais parce qu'il est insupportable.
Il n'y a pas de haine entre nous.
Non, c'est de la haine gentille, tu vois.
Ah, d'accord.
C'est juste que t'es insupportable, t'es infernal, quoi.
Mais je t'admire,
t'es bon, c'est tout, faut le reconnaître.
Si je suis infernal là, au bureau, à la rédac, heureusement que tu m'as pas côtoyé en tant que joueur.
Pas beaucoup de blagues d'ailleurs ce soir, Stephen, t'es pas en grande
forme. Non. Bah non, j'ai une émission sérieuse, m'a dit François Pesantine, donc j'arrête les blagues.
Qui a déclaré, on a vu avant le match que la concentration n'était pas la même que jeudi?
Vincent Collet,
oui, absolument. On va faire un contre zéro bientôt dans cette émission. Tiens, alors on change, ça n'a rien à voir.
C'est du basket quand même.
C'est du basket, mais comme je voulais pas faire que de l'équipe de France et que l'actu en ce moment c'est que l'équipe de France, je vous ai inventé un nouveau truc. Je vous donne le parcours d'un joueur français en NBA. À vous de deviner de qui il s'agit. Et franchement, même pour moi c'est facile. Donc j'ai essayé de trouver un truc pas si évident que ça.
Très bien, Pierrot.
Mais normalement ça doit fuser, hein.
Moi, je suis pas un fuseur.
Voici les clubs dans l'ordre. Vous savez ce qu'on va faire?
C'est juste les clubs?
Juste les clubs.
Ouais.
Vous savez ce qu'on va faire? Stephen, t'as le droit de répondre qu'à partir du deuxième club. On va laisser cet avantage-là à Fred. Ok?
C'est un manque de respect, cette règle, par rapport à Fred.
Il y a 5-0. T'as compris? Il y a 5-0.
D'accord.
Alors, c'est parti, je vous les donne dans l'ordre et je fais pas de pause, hein.
Tu l'as vu, toi, le quiz.
Donc, ce joueur français qui a joué en NBA d'abord aux Warriors. Avant d'aller à Orlando Magic.
Mike Pietrus,
c'est excellent!
C'est Orlando Magic qui m'a aidé. Et lui.
Et au deuxième club, hein. Donc là, il n'y a rien à dire, hein.
J'avais pas le droit de répondre. Mais c'est pas faux.
Si, Orlando Magic, t'as le droit. À partir du deuxième, je t'avais dit, hein. Tu savais pas, de toute façon. Sois honnête, tu l'avais pas. Au moment où il l'a dit, tu l'avais pas.
Ça peut te faire plaisir, Pierrot.
Dis-moi la vérité.
Bah, si, je l'avais aux Warriors.
Bravo, Fred, t'es excellent. 5-1. On va revenir à l'équipe de France féminine. Lors de la victoire de l'équipe de France donc contre le Canada hier, qui a été élu MVP?
Sarah Mitchell.
Ni l'une ni l'autre.
Nurse, la
non.
Canadienne.
Non.
Alexia Chartereau,
t'as qu'à regarder sur ton ordinateur. Qu'est-ce que c'est?
Bah c'est des notes.
Ah, tu prends des notes?
Oui.
Pour le quiz?
Bah pour le quiz, pour l'émission.
C'est bien, c'est la bonne réponse. 11 points, 100% au tir. 3 rebonds, 3 passes.
C'est correct.
Un petit commentaire.
Parlez-moi
de cette joueuse, Alexia Chartereau. C'est correct en plus.
C'est un peu je l'ai vu jouer plusieurs fois et j'ai l'impression de me voir jouer en fait.
Déjà que le terrain est un petit peu en pente, en attaque poste 4 qui met dedans à 3 points, qui s'écarte de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai dit d'ailleurs que j'ai l'impression de me voir jouer à Madis. C'est bien ou c'est mal? Je dis, bah ça dépend de quel côté du terrain.
Ça fait 6-1, tout est encore possible.
Bien sûr.
Fred. Qui suis-je? Je suis un entraîneur de basket. J'ai notamment eu sous mes ordres le grand Dirk Nowitzki.
Henrik Detman.
En France, Henrik Detman, c'est excellent, le sélectionneur de la Finlande, il est malin. Il est malin, j'adore, tu vois, je peux que l'admirer, Fred, tu m'excuses, mais c'est excellent.
Non, mais admire-le, il n'y a pas de problème.
Parce que Henrik Detman, on parle du sélectionneur de la Finlande battu par la France hier, qui a longtemps été sélectionneur de l'Allemagne. Et alors, j'allais vous dire surtout qu'il a fait des passages remarqués à Dijon et Strasbourg.
Ça aurait pu aider.
Ah, t'es dur.
C'est un shoot rapidement quand même, notamment à Strasbourg.
Oui,
il a pris deux shoots à Strasbourg.
Et en plus, dans ses malheurs, il a eu un accident, je crois qu'il s'est fait renverser par une voiture à Strasbourg.
Il coachait en
béquille. C'était dur, mais c'est pas un mauvais coach,
Henrik Detman. Et la Finlande, ça donne quoi?
C'est une belle équipe. Là, il a remarqué Lauri Markkanen, qui est un joueur phénoménal. Les Finlandais nous ont battus à l'Euro l'année dernière avec ce Lauri Markkanen qui nous a détruits. Il nous embête tout le temps. Là, c'était une équipe un peu amoindrie. Vincent Collet a mis Charles Kaudi en mission défensive sur Petteri Koponen, qui est un peu le maître à jouer de la Finlande. Charles a très bien fait son travail, il l'a éteint. Et voilà, on a roulé sur les Finlandais.
Donc tu l'avais pas, Henrik Detman, on est d'accord, Fred?
Non, pas du tout.
Alors, désormais...
Non, moi j'ai joué quand c'était contre son équipe, quand c'est lui qui coachait.
On va réviser la saison de Jeep Elite. Nouveau jeu, je vous donne des joueurs vous devez deviner le nom de joueurs qui ont changé de club. Je vous donne les deux clubs, club d'origine, club d'arrivée.
D'accord.
C'est bon pour vous?
Oui.
Il y a du facile et du difficile, voire très difficile. Il y en a trois, donc tu peux remonter, Fred. Allez, on parle d'abord d'un joueur qui passe de Chalon à Strasbourg.
Chalon-sur-Saône? Ou Chalon en Champagne?
C'est Chalon-sur-Saône.
Putain, c'est pas possible!
Mais tu l'as?
Oui, mais
bah
oui.
Tu l'as.
Jérémy Enzoli.
Mais oui.
Voilà, putain, impossible de trouver son nom. Impossible.
C'est pas possible.
Là, j'ai trouvé plus. Impossible. Bon, blocage.
Incroyable. Ça nous fait combien là? 8-1.
Bon, c'est bon, on n'est plus obligé d'annoncer le score à chaque fois là.
Qui est passé de Levallois à Antibes cette intersaison?
C'est pas l'inverse? C'est pas Mouftaou Yaro qui est passé d'Antibes à Levallois?
Et ben, je vous demande celui qui est passé de Levallois à Antibes. Et l'autre, il me dit ouais, c'est ça, ouais. Mais
ben, coup,
celui qui est passé de Levallois à Antibes, tu vas marquer un point.
Celui qui est passé de Levallois à Antibes.
Louis Campbell, mais entre temps, il est passé un peu sur mer. Hein.
Et alors?
Ben donc il est pas passé d'un endroit à un autre, il est passé de Fos-sur-Mer à Antibes.
Donc tu contestes ton propre point.
Ben oui, non, je te dis juste la vérité. C'est juste la vérité, moi.
Et enfin, je vous demande un joueur qui est passé de Blois à Chalon.
À Chalon-sur-Saône ou Chalon-Champagne?
Chalon-sur-Saône.
Ah, c'est Hassan Endoy.
Non, ça je savais pas. Là,
excellent réponse de Stephen Brown, mais quand c'est comme ça, au lieu de le regarder, réfléchis.
Mais je peux réfléchir quand tu n'as pas la réponse. Comment tu réfléchis?
Je vous explique la scène. Quand Stephen est sur le point de trouver qu'il réfléchit à voix haute, Fred il le regarde comme ça, bouche bée.
Mais je lui dis, est-ce qu'il va sortir ça, oui ou non?
Comme une carpe.
Hassan Endoy qui revient en fait parce qu'il était prêté par Chalon à Blois. Il revient dans son club formateur.
Cette expertise basket. Alors on est en retard, mais j'en ai un juste pour rigoler. C'était une question subsidiaire au cas où vous seriez égalité.
Bon, bien, tu pouvais le dire dès le départ si tu n'avais pas la poser.
Mais c'est une question qui n'a rien à voir du tout avec l'actualité. Ça date d'il y a quelques années. Enfin, dans quelques mois exactement.
Vas-y.
Une légende du basket français qui a déclaré « Je connais le basket, j'ai vu assez de matchs dans ma vie ». Mais je n'avais jamais vu Lionel Messi en live. Ça a été très plaisant de voir le Barça gagner 2-0.
Fabien Causeur. Non, un mec qui joue au Barça. Edwin Jackson, Thomas Hurtel, Adrien Moirement.
Une légende.
Une légende. Du basket français ou du basket tout court?
Basket
Antoine
français.
Rigaudeau.
Antoine Rigaudeau. Excellente réponse. Tu vois, t'es là sur les légendes. À tout de suite.
Ça, oui, bien sûr.
Pour Locker Room, Gaëtan Muller va venir répondre à toutes les questions et à la polémique sur le changement de couleur de l'ASVEL.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time avec Fred Weiss et Stephen Brun. On a un œil attentif sur France-États-Unis à Antibes avec Arnaud Valadon, l'équipe de France féminine qui prépare sa Coupe du Monde.
On va démarrer le dernier quart-temps, 4 points de retard seulement pour les Françaises. Pourtant, elles avaient pris un éclat, un 12-0 et elles sont revenues, les joueuses de Valérie Garnier. 50 pour les États-Unis, 46 pour la France.
Allez, on va dans le locker room tout de suite.
RMC,
Buzzer Time.
Buzzer Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Avec Cyril Méjeanne, donc.
Bonsoir, messieurs.
Des infos.
Bonsoir.
Toujours des infos sur le basket français. Cyril, c'est le gros dossier de cette pré-saison. C'est l'ASVEL qui change de nom et surtout de couleur. Alors, parce que deux noms, pas vraiment. LDLC ASVEL. Mais le vert laisse sa place pour du blanc et noir. Explique-nous toute cette histoire.
Mardi dernier, l'ASVEL annonce avoir signé le plus gros contrat de naming du basket français avec le vendeur en ligne lyonnais de produits high-tech LDLC, comme tu le disais, Pierrot. Pour une durée de 10 ans, ce contrat représente entre 8 et 9% du budget de l'équipe qui sera d'environ 9 millions d'euros pour cette saison. Tony Parker a déclaré, c'est un moment important pour le club, une nouvelle étape pour le rendre plus moderne. Avec ce contrat, un nouveau logo rajoutant le nom du sponsor a été créé avec un double 4 en hommage à Alain Gilles et de la Nérode. La polémique vient surtout du changement des couleurs du maillot, le vert emblématique disparaissant pour du noir et blanc qui sont les couleurs du sponsor. Et cela ne plaît pas du tout au maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett.
Ouais, je réagis pas très bien parce que je trouve que c'est une mauvaise décision. Après, j'avais été informé au mois de juillet dernier par Gaëtan Muller du fait qu'il voulait jouer davantage en noir. Et j'avais exprimé le souhait que le vert ne disparaisse pas, non pas pour rester en vert intégral. Il y a la façon de rester du vert de façon importante, en tout cas lisible, surtout ce que mon argument, qui était d'ailleurs le sien à l'époque, donc il m'avait dit, c'est aussi mon avis. Alors, je pensais que son avis allait devenir plus prépondérant. J'avais dit, il faut qu'on garde quand même une réminiscence, quoi, de la couleur verte, parce que c'est quand même la couleur du club.
Et du côté du supporter, Alexis Le Capot des Green Guns nous explique que certains abonnés envisagent de ne plus venir voir les matchs.
J'ai reçu beaucoup de messages comme quoi ben ils hésitent finalement à s'abonner, ça devient un peu du business, l'ASVEL, j'ai beaucoup de retours comme ça, j'essaie de tempérer les choses mais c'est compliqué. Moi je parle pour mon groupe, on a fait énormément d'efforts, je suis arrivé en 2012, on était 30 membres. Aujourd'hui, on est 130 et on a un beau projet qui est en parallèle avec le projet de l'ASVEL, l'Euroleague. On essaie de se développer et aujourd'hui, je constate que ben on a déjà perdu une quinzaine d'abonnés comparé à l'année dernière. Et j'ai pas envie que ben on retourne en arrière et que on devienne un groupe de supporters moyen. Voilà, on a eu des belles ambiances l'année dernière et je veux que ça continue comme ça.
Alors voilà pour les réactions locales, hein, parce que c'est vrai que au niveau national, vous les premiers, vous avez plutôt vu cette annonce d'un bon œil, Fred et Stephen.
Honnêtement, forcément, quand on voit que une équipe qui vise l'Euroleague à très court terme reçoit une manne financière aussi importante, qu'on parle de plus de 8 millions d'euros sur 10 ans. Hein.
Alors donc, le problème vient donc des supporters et on les comprend, c'est jamais
on les comprend parce qu'ils perdent une couleur emblématique couleur. Et on peut l'entendre et en plus il y a eu des propos du patron de LDLC qui disait que le vert n'était pas une couleur très très bien représentée en Europe.
Alors Gaëtan Muller, le président délégué de l'ASVEL, est en direct dans Buzzer Time sur RMC pour répondre à toutes les interrogations. Salut Gaëtan.
Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir.
Bonsoir.
Gaëtan, tu as entendu le maire de Villeurbanne, tu as entendu le capot des Green Angels, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, tout d'abord que chacun a le droit de s'exprimer, d'avoir son d'avoir son point de vue. Maintenant, c'est vrai qu'avec le maire de Villeurbanne, on aura l'occasion d'échanger, soit lui ou avec Tony également, parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait de changer de couleur ne tue pas l'ASVEL ou ne détruit pas l'histoire de l'ASVEL, bien au contraire, en tout cas dans le sens où, parce que lui, je peux le comprendre, c'est vrai que la ville de Villeurbanne nous soutient fortement depuis toujours, et c'est lui-même un fidèle et un fervent supporter du club, ça je peux pas lui retirer, et c'est une évidence. Et tout d'abord, et d'ailleurs, je dirais que nos relations sont très bonnes, mais pour autant, aujourd'hui, changer de couleur n'est pas la fin du monde, et surtout, on aura notre salle à Villeurbanne, donc c'est quelque chose aussi d'important, je pense, quand on veut montrer et dire que l'on appartient à une ville et qu'on est dans un bastion bien particulier, je pense que déjà de positionner sa salle à Villeurbanne et pas à Lyon, c'est un signe fort. Après, sur le changement de couleur, je pense que, bah, effectivement, on l'a toujours dit, une fois qu'on a dit que le bastion du basket sur la métropole lyonnaise, c'était Villeurbanne. Nous, on a une ambition, c'est l'Euroleague, et cette ambition, elle se fait en fédérant un maximum de personnes. Et pour fédérer, je pense qu'il faut viser plus que la ville de Villeurbanne, je pense qu'il faut viser la métropole lyonnaise d'un 1,5 million d'habitants, et crier à les verts tous les soirs et tenter de remplir 10 000 personnes de cette manière-là. C'est peut-être pas meilleure manière à Lyon de fédérer un maximum de... Alors, au-delà de ça, je pense que, voilà, chacun, encore une fois, a le droit d'avoir son avis. Les choses
Tu parles de la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne, là, il s'agit de ça?
Je pense que c'est effectivement quelque chose qui existe. En tout cas, là, c'est sûr que quand on interroge certains supporters, on s'aperçoit que ils sont déçus qu'il y ait un changement de couleur et que le vert disparaisse. Encore que, on en reparlera tout à l'heure, il disparaît pas totalement puisqu'on aura notamment un écusson avec les 70 ans qui sera totalement en vert sur le maillot pour toute l'année puisque c'est les 70 ans du club, et qu'également une à deux fois par an on jouera avec un maillot collecteur que les supporters et les abonnés pourront choisir en pré-saison.
Mais tu penses pas surtout qu'il y a eu un problème de communication avec le patron de LDLC quand il critique la couleur verte mal représentée en Europe, ou en tous les cas qui faisait pas sérieux sur des clubs européens? C'est peut-être ça qui le vrai problème, le vrai fond du problème.
Oui, peut-être qu'il y a eu un problème de communication ou d'interprétation. Je pense pas que, en tout cas, ce soit la volonté de Laurent de la Clergerie que de dire que on ne peut pas jouer ou gagner en vert. C'est pas ça le sujet. Je pense que véritablement, on a envie aujourd'hui de passer un cap avec ce naming. LDLC nous permet de passer ce cap. On a envie aussi d'aller loin en Europe. Alors, je pense qu'effectivement, le problème n'est pas le naming, parce qu'en Europe, comme on le 50% des clubs en Euroleague pratiquent un naming, et 50% des clubs d'Eurocup pratiquent un naming aussi. Après, c'est vrai que le changement de couleur, en plus de l'annonce, peut surprendre ou peut-être choquer certains. Ça, on peut le comprendre, mais il faut aussi être honnête. Les couleurs véritables du club, c'est le noir et le vert. Et depuis 4 ans, je dirais même depuis 2 ans, enfin en tout cas depuis 2 ans, la couleur verte est vraiment minorée, voire même pratiquement inexistante de notre maillot. Donc après, si le problème c'est de l'annoncer et plutôt que de le dissimuler, je pense que ça peut être un problème de communication, mais je pense que au-delà de ça, et notre ambition c'est d'aller conquérir l'Europe, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait le chemin qui nous reste à parcourir. En tout cas, on a envie d'être le premier représentant français en Euroleague et de pouvoir à terme bien y figurer. Et je pense que là,
c'est une personne c'est un contrat qui vous aidera à réaliser cet objectif. Merci beaucoup Gaëtan, et à très bientôt dans Buzzer Time. On aura l'occasion d'en reparler. On sera quand même très attentif au premier match à domicile, pour voir comment tout ça se met en route et comment les supporters soutiennent votre équipe. Merci beaucoup Gaëtan.
Merci à vous.
Le temps, le score, Arnaud Valadon, France, États-Unis, féminin Antibes.
5 minutes encore à jeu dans cette partie. Les États-Unis ont un matelas d'avance. 9 points d'avance, 63-54.
C'est l'heure de l'after. Il est là, Nicolas Villas et toutes ses femmes. Parce que je voulais dire tous ses fans et c'est sorti tout seul, tu vois. J'ai dit toutes ses femmes. On t'entend pas, ton micro est fermé.
Tu veux que j'ai des problèmes, toi, c'est ça?
Non, on sait que t'as une corde de groupies qui t'attend en bas de l'immeuble.
N'importe quoi, hein. J'ai deux groupies qui m'attendent, c'est Pierre Ducrot et Daniel Riolo. L'after va commencer dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux, toi?
Jaloux du Neuf Papillon, je pense. En rose, aujourd'hui, il est magnifique.
Franchement, ton sur ton, de L'Oréal. Rien à voir. Bref, on vous attend dans quelques instants. Les avis tranchés de Daniel et de Pierre. Dans quelques instants, les questions de l'after. Et les drôles de dames seront là avec nous, parce que demain, il y a quoi, les gars?
Voilà,
t'es vraiment un palais, t'es en
cours. Ah là là.
Allez, à tout de suite pour l'after.
RMC Football Show, l'after foot.